أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. Interprétation correcte du Coran et du Hadith. Exégèse de certaines ayats et hadith. La louange est à Dieu, le Créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps, rien n'est tel que lui, il est celui qui entend et qui voit. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent, et que l'élévation en degrés les plus complets et les plus parfaits, et la préservation de sa communauté et de ce qu'il craint pour elle, soit accordée à notre maître Muhammad al-Amin, l'honnête, celui qui a appelé la religion de vérité, l'islam, la religion de tous les prophètes, du premier Adam au dernier Muhammad. Le Coran honoré comporte des ayahs, versets du Coran explicites, muhkamat, et des ayahs non explicites, mutashabihat. Allah Ta'ala dit هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Ce qui signifie: Allah est celui qui a fait descendre sur toi le livre qui comporte des ayats explicites qui sont la base du livre et d'autres non explicites. Quant à ceux dont le cœur comporte un égarement, ils vont s'attacher à ce qui n'est pas explicite pour en donner une mauvaise interprétation afin d'égarer les gens. Sourate Ali Imran, ayah 7. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-Qur'an imma hujjatun laka am alayk. Ce qui signifie: le Qur'an est une preuve pour toi ou contre toi. C'est-à-dire que si la personne interprète mal le Qur'an, cela sera contre elle. Donc dans le Qur'an, il y a des ayats clairs, explicites, qui n'admettent qu'un seul sens du point de vue de la langue, et d'autres ayats non explicites qui, du point de vue de la langue, admettent plusieurs sens, mais bien sûr, ne sont retenus les sens que les sens corrects, c'est-à-dire qui ne contredisent pas les autres ayats, parce que les autres ayats, donc qui sont explicites, Allah les a appelés « Hunna Ummul Kitab », ce sont les bases du livre. Ainsi, il n'est pas permis d'interpréter le Coran selon son propre avis, mais on demande aux gens de la connaissance, dignes de confiance. Allah Ta'ala dit: Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ce qui signifie: demandez aux gens de la connaissance si vous ne savez pas. Surat An-Nahl, ayah 43. Par ailleurs, il faut savoir que le Coran a été révélé en langue arabe. Il n'est pas permis de le traduire mot à mot, comme le font certaines personnes ignorantes de la science de la religion, qui traduisent mot à mot, induisant ainsi plusieurs contradictions. Or, dans le Coran, il n'y a pas de contradiction. La manière correcte est de traduire l'interprétation correcte du verset, traduire le sens donc du verset, donc le sens qui est donné par les savants. Et nécessairement, ce sens-là ne peut pas contredire la raison, ni les autres ayats du Coran, ni la croyance musulmane. Sinon, il serait réfuté, on ne l'accepterait pas. Donc si quelqu'un dit des paroles en français qui comportent une assimilation de Dieu à ses créatures, en lui attribuant les organes, ou la localisation, ou l'établissement, ou le contact, ou les déplacements, ou la position assise ou debout, ou le changement d'humeur, ou la colère, ou les sentiments, ou tout ce qui est des attributs des créatures, on lui dit: ces paroles, c'est toi qui les as dites, ou tu les as lues dans certains livres qui prétendent traduire le Coran. Or, ces paroles, en français, sont l'œuvre d'un humain. Ils ne proviennent pas du Coran, qui est bien en langue arabe. Et ces paroles, en français, contredisent les versets explicites, indiquant clairement que Dieu n'a aucune ressemblance avec les créatures. Et ceci nous indique clairement que ces paroles, en français, qui comportent une assimilation de Dieu à ses créatures, sont catégoriquement rejetées. De plus, il n'est pas permis de dire que Dieu un fils pas comme nous, ou un visage pas comme nous, ou une main pas comme nous, ou qu'il s'assoie ou s'établit pas comme nous, car tout ceci n'est pas valable du point de vue de la langue et de la religion, et ceci de la mécréance. Et celui qui a commis de la mécréance doit prononcer qu'il n'est de Dieu que Dieu, et que Muhammad est le messager de Dieu pour revenir à l'islam en ayant délaissé la mauvaise croyance. On dit à la personne qui prétend ces mauvaises paroles au sujet de Dieu, « Toi, tu n'accepterais pas qu'on dise de toi, tu es stupide, mais pas comme les stupides. » Car le mot stupide n'admet qu'un seul sens du point de vue de la langue, qui est péjoratif.
De même, on ne dit pas que Dieu a un fils ou une main, ou s'assoit ou s'établit pas comme nous. Ceci n'est pas digne de Dieu.
Donc les versets explicites sont des versets dont le sens visé est connu d'une manière claire. Tel que sa parole Ta'ala, Laïsa kamithlihi shay, ce qui signifie rien n'est tel que lui. Surat Ash-Shura. De même, Allah Ta'ala dit « وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ » ce qui signifie « il n'a aucun équivalent » Sourate Al-Ikhlas, ayah 4. Quant à ce qui est non explicite, c'est ce qui comporte plusieurs sens dans la langue qui a besoin d'une interprétation convenable pour retenir le sens conforme à ce qui est explicite. Donc, quant à ce qui est non explicite, c'est ce qui comporte plusieurs sens dans la langue et qui a besoin d'une interprétation convenable pour retenir le sens conforme à ce qui est explicite. Il n'est donc permis à quiconque de faire l'exégèse du Coran selon son propre avis. On demande plutôt aux gens de la science afin de ne pas assimiler Dieu à ses créatures. Ainsi, il est un devoir d'interpréter ce qui est non explicite dans les textes d'une manière conforme aux textes qui sont explicites. Donc un exemple connu par une ayah interprétée par le grand savant l'imam al-Bukhari dans son livre Sahih qui s'appelle donc Sahih al-Bukhari. Allah dit dans le Coran, donc Allah Ta'ala dit dans le Coran, kullu shay'in halikun illa wajhah. Donc ici il employé le mot wajh au sujet de Dieu. Donc on garde le terme qui est dans le Coran, donc qui est en arabe. Le mot wajh ici, le Bukhari l'a dit, illa wajha ay illa mulkah. C'est-à-dire la souveraineté de Dieu ici. Il n'a pas dit visage, il a dit souveraineté. Donc la ayah, donc dans ce cas-là, voudrait dire toute chose sera anéantie sauf la souveraineté de Dieu. Comme on dit aussi en arabe, fa'altu hadha li wajhi Allah. Je fais ça li wajhi Allah, c'est-à-dire par recherche de l'agrément de Allah. Ce n'est pas pour le visage ou la face de Dieu, ça c'est pas digne de Dieu. Donc ceux-là qui traduisent ainsi, c'est des gens qui ne connaissent pas la religion. Donc nous allons citer certains versets non explicites en donnant leur interprétation conforme aux versets explicites. Donc citer quelques exemples d'interprétation. Allah Ta'ala dit « إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » ce qui signifie les bonnes paroles montent vers l'endroit honoré par Allah et les bonnes œuvres y sont élevées. Ilayhi ici, donc ça ne veut pas dire vers lui dans un endroit où serait Dieu localisé, mais veut dire l'endroit honoré par Allah, donc qui est le ciel. Donc le ciel est un endroit honoré par Allah, là où habitent les anges qui ne désobéissent pas à Dieu. Et au-dessus du septième ciel, comme on sait, il y a le paradis. Et descend du ciel la pluie aussi. Donc cette interprétation est conforme à la parole Laïsa kamithlihi shay, qui signifie rien n'est tel que lui. Donc ceci est une interprétation correcte qui ne comporte pas d'assimilation de Dieu avec ses créatures. Donc de même, la ayah al-Rahman ou al-Arsh istawa. Les savants ont dit istawa ici, qahara, domine. Donc Dieu domine le trône par sa puissance, il le préserve. Donc istawa, ça a plusieurs sens. Ça a le sens de, quand on dit la nourriture istawa. En arabe, istawa ta'am, ça veut dire la nourriture est prête, est arrivée à point, est cuite. C'est utilisé aussi istawa donc pour s'établir aussi. Mais ici, bien sûr, ce sens-là n'est pas valable pour Dieu, de même que le premier qu'on a dit.
Donc, parmi les sens de istawa aussi dominer. Donc, ça, ce sens est valable pour Dieu. C'est pour cela que les savants ont choisi ce sens-là. Donc, l'objectif dans cette ayah est que nous sachions que Allah est tout-puissant sur toutes les créatures. En effet, le trône étant le plus grand de tous les corps, si Allah domine le trône, il domine à plus forte raison tout le reste. Donc, le trône, c'est le plus grand corps que Dieu a créé et les anges tourne autour du trône. Allah dit dans le Coran: Wa tara al-mala'ikata tahafina min hawli al-arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim. Donc tu vois les anges tournent autour du trône et glorifient leur Seigneur. Comme les humains tournent, les musulmans, donc parmi les humains, ils tournent autour de la Kaaba. Donc il est interdit d'interpréter un verset non explicite dans un sens qui ne convient pas d'être attribué à Allah Azzawajal. Et de toutes les manières, il n'est pas permis de parler de la religion sans connaissance. Notre maître Abu Bakr, donc le meilleur des compagnons, a dit, une fois il a été interrogé sur une ayah du Coran, il a dit La adri ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tuqilluni in ana qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Il a dit, je ne sais pas quelle terre va me porter, quel ciel va m'abriter si je dis dans le Coran ce que je ne sais pas. Donc alors qu'il maîtrise la langue arabe, il a appris avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand on ne sait pas, on dit je ne sais pas. Donc ce n'est pas en lisant dans des livres ou en interprétant ou en interprétant de son propre avis. On demande aux gens de la connaissance. Donc quelqu'un qui tombe malade, il ne va pas lire dans les livres pour se soigner, parce qu'il a peur de se nuire en fait. Et donc dans la religion, la personne a la peur de se nuire, parce que croire une mauvaise croyance et mourir sur une mauvaise croyance, la rétribution de cela, c'est de rester éternellement en enfer. Et l'enfer est insupportable. Donc, et la mort ne prévient pas. Donc, l'imam Ali ibn Abi Talib a dit: Inna Allah khalaqa al-arsh izharan li qudratih wa lam yattakhidhu makanan li dhatih. Ce qui signifie: Certes, Allah a créé le trône comme manifestation de sa toute-puissance. Et il ne l'a pas pris comme endroit pour lui-même. Il faut savoir que Allah a créé les âmes et les corps. Il n'est ni une âme ni un corps. Quant à sa parole, Ta'ala, fanafakhna fihi min ruhina, ce qui signifie nous avons fait insuffler dans son corps l'âme que nous avons créée, honorée. Mais ruhina ici, ça veut dire c'est une âme qui appartient à Dieu et honorée. Comme on dit Baytullah, celui de la mosquée, on dit Baytullah, ça veut pas dire Dieu habite la mosquée, ça veut dire c'est appartient à Dieu, c'est honoré par Dieu, les mosquées. Donc cette ayah signifie que Allah a ordonné à l'ange Jibril d'insuffler dans le corps de Mariam l'âme de Isa, qui est une âme honorée. Les âmes sont en effet de deux sortes, il y a des âmes honorées et de mauvaises âmes, des âmes malignes, les âmes. Des prophètes font partie de la première sorte, des bonnes âmes. Donc, quant au fait que Allah s'attribue les âmes de Isa et de Adam, exprimées par le nom possessif Na dans Mirruhina, ceci exprime la marque d'honneur, Idafatut Tashrif. On dit la même chose à propos du verset Antahira Baytiya lit-ta'ifina wal-'akifin. Ici, Baytiya renvoie au sens de l'honneur. La Kaaba est un endroit honoré selon le jugement d'Allah. C'est-à-dire la Kaaba donc est honorée par Dieu. Comme on l'a dit, Baytullah au sujet de la mosquée. C'est-à-dire qui appartient à Dieu et honoré par Dieu. Quant à sa parole, Ta'ala, Yakhafuna rabbahum min fawqihim, ce qui signifie ils craignent Allah. Lui qui les domine par sa toute-puissance. Sourate An-Nahl. Ils craignent leur Seigneur. Ici, min fawqihim signifie la domination par la toute-puissance, Al-Qahar. Et non pas d'être au-dessus, c'est-à-dire l'endroit ou la direction. Concernant le sens de la parole de Allah, qui concerne le blâme fait à Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ce qui signifie, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner pour ce que j'ai créé et j'ai honoré? Sourate Sad. Il est permis de dire que biyadai signifie ici l'honneur et la préservation. ça veut pas dire les mains. Donc en langue arabe, c'est riche. Comme on dit par exemple, atashakhsu aynuhu. Aynuhu ici, ça veut dire la personne est venue elle-même. On dit pas, on va pas traduire aynuhu, son œil est venu. Ça serait contraire donc au sens de la phrase. Donc on traduit le sens. De même quand l'ayn, donc on a vu là l'yad, l'exemple, il y a l'ayn attribué au sujet de Dieu, on ne traduit pas par œil, comme dans la ayat tajri bi ayunina au sujet du bateau de Noé. Tajri bi ayunina ici, ça veut dire le bateau va avec la préservation de Allah. Et aussi la parole de Allah Ta'ala dans le Coran, wa jaa rabbuk, qui signifie les manifestations de la puissance de ton Seigneur apparaîtront. Donc on traduit ici bien sûr directement le sens. Donc ça c'est l'interprétation qui est faite par le grand savant l'imam Ahmad. Donc dans sourate Al-Fajr, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Donc les manifestations de la puissance de ton Seigneur apparaîtront car des événements imminents seront manifestés au jour dernier. On dit au sujet de la parole de Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum ayna ma kuntum, qui signifie certes Allah sait tout de vous où que vous soyez. Allah sait tout de vous où que vous soyez. Donc on ne dit pas Dieu est partout, on dit Dieu sait toute chose où que tu sois. Mais Dieu existe sans endroit et sans comment. Quant à sa parole, Ta'ala, wa qila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadha. Elle exprime le reproche et signifie vous êtes maintenant privé de notre miséricorde quand vous avez négligé d'obéir à Allah dans ce bas monde en ayant foi en lui. Donc sourate Al-Jafir. Donc on ne va pas traduire mot à mot comme font certaines personnes ignorantes. Donc ici, il ne va pas dire que Dieu vous a oublié. Non, on ne dit pas comme ça. Donc attribuer à Dieu l'oubli, c'est de la mécréance. Donc, وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. C'est-à-dire, vous êtes maintenant privé de notre miséricorde, comme vous avez négligé d'obéir à Allah dans ce bas monde en ayant foi en lui. C'est-à-dire, quand vous êtes mort mécréant, donc vous n'aurez pas la miséricorde de Dieu dans l'au-delà. Car la miséricorde de Dieu dans l'au-delà, c'est que pour le musulman. De même, la parole de Allah Ta'ala, إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَهُ. Sourate Al-Baqarah, ayah 26. Le sens du verset est que Allah ne délaisse pas de faire éclater la vérité par pudeur comme le feraient les êtres humains. C'est-à-dire que Allah ne délaisse pas de faire éclater la vérité, il ne la délaisse pas par timidité ou par honte, comme le font les créatures. C'est une chose impossible s'agissant de Allah. Ainsi, il est interdit de nommer Allah par Al-Mustahi, le timide. Donc voilà, on traduit la signification. Et c'est ce que font les vrais savants de l'islam. Si on voit les grands tafsirs, les livres en arabe de d'exégèse, on voit c'est plusieurs volumes. Certains, l'épaisseur de 50 cm, les volumes ou plus. Alors que certains qui ne connaissent pas la religion, qui vendent des livres à droite à gauche, ils font des livres, un seul livre, ils disent ça c'est traduction de tout le Coran. Donc il ne suffit pas de maîtriser l'arabe pour interpréter le Coran. Donc réciter correctement c'est une science et interpréter correctement c'est une autre science. Quant à sa parole, Ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ Sourate Muhammad. Elle ne signifie pas que Allah saura qui sont les mujahidines après l'avoir ignoré en les éprouvant. Et en les testant, ceci est impossible s'agissant d'Allah. Allah sait toute chose avant qu'elle n'arrive. Sa science ne change pas. Donc cela ne veut pas dire que Dieu va apprendre qui va être bon ou qui va être mauvais avant que cela n'arrive. Dieu sait toute chose avant qu'elle n'arrive. Donc le sens de la ayah du verset est que Allah manifestera aux esclaves par les épreuves qui d'entre eux font preuve d'effort et de patience ou non. Donc celui qui dit que Allah acquiert une nouvelle science devient mécréant. Attribuer à Dieu le changement, c'est de la mécréance. Donc la ayah veut dire que c'est les humains eux-mêmes qui vont être témoins sur eux, sur eux-mêmes ou sur les autres, qu'ils ont été obéissants ou non. Et les anges seront aussi. Mais Dieu, lui, sait.
Donc, qui va apprendre? Ce sont les anges et les humains eux-mêmes. Il sera. Et donc, chacun, comme c'est expliqué dans le Coran, chacun il va être rétribué par l'enfer ou le paradis en ayant reçu l'épreuve. C'est-à-dire, il a vu de lui-même qu'il était obéissant ou non. Donc, le mécréant dans l'au-delà, il saura pourquoi il va en enfer, parce qu'il sait de lui-même qu'il était vraiment mécréant. Et le musulman, il sait de lui-même qu'il était donc musulman. Donc, c'est ça que ça veut dire. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ الصَّابِرِينَ. Et aussi la parole de Allah Ta'ala, Allahu nuru samawati wal ard, sourate An-Nur. Donc cela signifie que Allah est celui qui guide les habitants des cieux et les habitants croyants de la terre vers la lumière de la foi. Allahu nuru samawati wal ard, ça ne veut pas dire que Allah est une lumière dans le sens qui est contraire de l'obscurité, car il est celui qui crée la lumière et l'obscurité. Il a créé les corps palpables et impalpables, comme l'obscurité et la lumière. Allah nur al-samawati al-ard veut dire que Dieu guide vers la lumière de la foi. Il a dit Ta'ala dans Sourate Al-An'am, wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur, qui signifie il créa les obscurités et la lumière. Dès lors, comment serait-il possible qu'il soit une lumière comme ces créatures? Allah est absolument exempté de cela. Il est donc interdit de croire que Allah aurait une couleur ou une forme. Quant à ce qui a été rapporté dans le hadith, que Allah est Jamil, cela ne signifie pas qu'il serait beau, mais qu'il a des attributs de perfection dignes de lui, ou encore qu'il accorde le bien. C'est ça que ça veut dire. Donc la langue arabe est riche. Donc ici, Jamil, au sujet de Dieu, dans le hadith, ça veut dire qu'il a les attributs de perfection dignes de lui, ou encore qu'il accorde le bien. Quant au nuzul rapporté dans le hadith, Yanzilu Rabbuna kulla layla ila sama'i dunya, cela veut dire que c'est un ange qui descend sur ordre de Dieu pour transmettre de sa part, ce qui signifie qui m'invoque, je l'exauce, qui me demande pardon, je lui pardonne, qui me demande, je lui accorde. L'ange reste le dernier tiers de la nuit dans le ciel de ce bas monde jusqu'à l'aube. Donc ce hadith nous montre que c'est bien de se réveiller. Ça, parce que habituellement les gens ils s'endorment à cette heure-ci, donc celui qui fait l'effort, donc Dieu lui accorde ces grâces-là. Donc le musulman qui fait l'effort de se réveiller le dernier tiers de la nuit, environ par exemple 1 heure avant Soba, il fait des doigts et des invocations. Donc ça veut dire que Dieu ordonne, Yanzilu Rabbuna, c'est-à-dire ici attribuer l'acte à celui qui l'a ordonné. Comme on dit, par exemple, dans la langue, tel roi, il a conquis tel pays. Alors que le roi lui-même, il n'a pas bougé, il est resté sur son trône. Mais ça veut dire, on lui attribue l'acte de façon figurée, dans son sens figuré, parce que c'est lui qui a ordonné. Donc ça existe dans la langue, même la langue, plusieurs langues en fait. D'attribuer l'acte à celui de dans le sens figuré à celui qui l'a ordonné. Comme l'exemple connu, le roi il a conquis tel pays ou il a construit telle chose, alors que c'est pas lui vraiment qui a fait ça. Mais c'est une attribution de son dans le sens figuré, étant donné que celui qui l'a ordonné. Donc ici, Yanzilu, ça veut dire que Dieu a ordonné à l'ange de descendre. Donc il a été rapporté de l'imam Malik. Donc le grand savant, l'imam Malik, le savant de Médine, qui l'a interprété le hadith par la descente de la miséricorde de Allah et de son ordre ou de ses anges. Comme on dit dans la langue, le sultan a fait telle chose si ses sujets font sur son ordre. Donc dans le livre Sharh al-Zurqani sur le Muwatta de l'imam Malik. Donc ça c'est page 34 dans le livre, c'est un livre très connu, il s'appelle Sharh al-Zurqani, commentaire fait par Zurqani, sur le grand livre connu de le Muwatta l'Imam Malik. Donc ça, c'est un des livres très connus de l'Imam Malik. Quant à celui qui dit Yanzilu, en gardant le terme en arabe, sans comment, ceci est vrai. Si quelqu'un garde le terme en arabe, il n'y a pas de contradiction parce que il a gardé le terme en arabe. Il dit sans comment. Ceci est vrai car lorsqu'il a dit sans comment, il a nié le mouvement. Quand on dit sans comment, ça nie le mouvement.
et le déplacement du haut vers le bas au sujet de Dieu. Donc ces interprétations correctes ont été rapportées par des grands savants comme Nawawi dans son commentaire de Sahih Muslim, ainsi que Ibn Hajar al-Asqalani, donc le grand savant du hadith, dans son livre Fathul Bari, commentaire du Sahih al-Bukhari. De plus, la version du hadith rapportée par Nasa'i, qui est Sahih, confirme que c'est un ange qui descend sous l'ordre de Dieu. Donc les hadiths, souvent, ils sont rapportés par plusieurs versions. Donc ici, une autre version rapportée par le grand savant du hadith, l'imam al-Nasa'i. Inna Allah yumhilu hatta yamdiya shatru al-layl al-awwal fa ya'muru munadiyan fa yunadi. Donc ce qui signifie quand s'écoule la première moitié de la nuit, Allah ordonne à un ange qui appelle. Donc les savants, ils prennent un hadith qui vont avec ce hadith expliquer un autre hadith. Donc c'est souvent utilisé un hadith qui explique une ayah, comme on a vu l'autre sur Sayyidina Isa, où le prophète explique la ayah innahu la ilmun lis-sa'a, c'est un signe de l'heure. Il a dit c'est la descente de Isa. Parce que la ayah, elle ne dit pas la descente de Isa explicitement, mais le hadith, il interprétait la ayah. Ou un hadith interprète un hadith. Ça, c'est ce que font les savants de l'islam. Et donc, par ailleurs, certains de ceux qui ont reporté le hadith de Al-Bukhari ont transmis le hadith avec la dhamma sur le ya, c'est-à-dire yunzilu. Il fait descendre. En arabe, la forme qu'on appelle yuf'ilu, c'est faire. Donc, yunzilu, c'est-à-dire il fait descendre, c'est-à-dire qu'il ordonne à un ange de descendre. Inna Allah yunzilu kulla laylatin ila sama'i dunya. Ce qui signifie Allah fait descendre un ange chaque nuit jusqu'au ciel du bas monde. Donc, les paroles des savants sont nombreuses, on va citer quelques-unes. Donc, parmi eux, le président des juges chefs en Égypte à son époque, Badruddin ibn Jama'a, décédé en 728 de l'Hégire. Donc là, on est en 1432. Donc ça, c'est le président des juges. Il y a les juges. Déjà, les juges, c'est des savants. À l'époque de l'État islamique, avant, les gens, ils apprenaient la religion, notamment pour accéder à certains postes dans le pouvoir, parce que c'était lié à la religion avant. Ils n'inventaient pas une loi avant. C'était les lois du Coran et du Hadith. Les juges, il y avait des règles tirées du Coran et du Hadith. On dit qadi. Et les juges, il y a le juge des juges. C'est le plus grand savant généralement qui désignait le juge des juges. Donc là, c'était c'était le président des juges Shafi'i. En Égypte, à son époque, Badruddin ibn Jama'a, donc c'est un grand savant connu, a dit dans son livre Idah al-Dalil fi qat'i hujaji ahl al-ta'til. C'est-à-dire ici, pour montrer les preuves des gens égarés, les preuves contre les gens égarés. Page 164, il a dit « Sache qu'il n'est pas permis de donner le sens du déplacement du haut en bas à Dieu dans le hadith du Nuzul. » Il a dit « C'est pas permis, c'est pas valable. » Il a dit ceci pour plusieurs raisons. La première, la descente est un attribut des corps de ce qui entre en existence. Elle requiert trois choses, un espace de déplacement, un espace qui est quitté et un espace qui est atteint. Et tout cela est impossible s'agissant de Allah. Donc bien sûr, les savants sont très intelligents et ils montrent avec les preuves claires, catégoriques et réfutables que c'est logique. Le déplacement donc nécessite un espace de déplacement, un espace qui est quitté et un espace qui est atteint. Et tout cela est impossible s'agissant de Allah, car tout ce qui est attribut de localisation, d'espace, de quantité, c'est forcément une créature qui aurait besoin de qui l'aurait spécifié ainsi. Donc la seconde raison, il a dit, si la descente était une réalité pour Allah, il se renouvellerait pour lui chaque jour et chaque nuit beaucoup de mouvements qui l'occuperaient entièrement toute la nuit, de même que beaucoup de déplacements. En effet, le tiers de la nuit se renouvelle pour les gens de la terre au fur et à mesure, à chaque moment. Cela impliquerait son déplacement dans le ciel du bas-monde, nuit et jour, d'un peuple à l'autre, son retour vers le trône à chaque instant, selon leur dire, et sa descente à chaque instant dans le ciel du bas-monde. Et cela, quelqu'un doué d'un minimum d'intelligence et d'entendement, c'est-à-dire de raisonnement, ne le dit pas. Donc il montre l'absurdité de ceux qui disent cela, Parce qu'il y a eu des égarés avant aussi, comme de nos jours, qui attribuent à Dieu la ressemblance aux créatures. Il a dit le tiers de la nuit, on le voit bien, le tiers de la nuit, il change à chaque instant, tu changes de terre, il y aura le tiers de la nuit, ça change pendant les 24 heures. Donc si quelqu'un, il dit que Dieu monte et descend, c'est comme s'il dit que Dieu fait que monter ou descendre. Parce que le tiers de la nuit, c'est pendant les 24 heures, chaque instant, chaque terre, il y a un tiers de la nuit. Ça change. Donc ça montre l'absurdité de ce que dit celui qui dit cela. La troisième, à celui qui dit, donc il a dit, à celui qui dit que Allah est sur le trône, qui le remplit, comment le ciel du bas monde pourrait-il le contenir alors que ce ciel est par rapport au trône comme un anneau dans une terre déserte? Selon vos dires, il ne resterait que deux solutions. Soit l'agrandissement du ciel du bas monde à chaque moment pour le contenir, soit la réduction de l'être glorifié qui est absolument exempt de cela jusqu'à rentrer dedans. Quant à nous, les gens de Ahl Sunna, nous sommes formels à nier les deux cas. Fin de citation. Donc il y a la parole en arabe, bien sûr, de l'imam Badruddin Ibn Jama'a. Et les paroles des savants sont très nombreuses concernant cela. Donc on aura l'occasion de citer. Donc, ultérieurement, Inch'Allah, d'autres paroles de grands savants de l'islam. Donc, remarque le tiers de la nuit, comme on a dit, calculé depuis le coucher jusqu'à l'aube. Donc, la nuit, dans la religion, ça dure depuis le coucher, c'est l'entrée de la nuit, jusqu'à l'aube. Et c'est là qu'on peut manger quand on jeûne. Donc, c'est là la nuit. Donc, pour avoir un tiers, il suffit de diviser par 3. Donc, quand on divise par 3, on a la première tiers, deuxième tiers, troisième tiers. Voilà, le dernier tiers, la dernière partie étant le dernier tiers de la nuit. Donc, par exemple, en se levant une heure sans calculer, par exemple, en se levant une heure avant l'aube, la personne est dans le dernier tiers de la nuit. Il est recommandé et non obligatoire que la personne accomplisse dans ce temps-là beaucoup d'invocations et de prières surrogatoires. Et généralement, c'est vers ce temps-là quand on se réveille pour manger, qu'on appelle sahur. Pour celui qui jeûne. Donc Allah n'a pas besoin des créatures, il n'a nul besoin d'autrui de toute éternité, alors que toutes les créatures ont besoin de lui. Allah n'a pas besoin de l'endroit. Il n'est pas localisé dans un endroit, ni dans une direction, car il existe Ta'ala de toute éternité, avant l'endroit, sans endroit, et celui qui a créé l'endroit, il n'a donc nul besoin de l'endroit. L'objectif de l'ascension, Al-Mi'raj, n'est pas de faire parvenir le prophète à un endroit où serait localisé Allah. L'objectif est d'honorer davantage le prophète en lui montrant les choses extraordinaires qui sont dans les mondes célestes. C'est de glorifier son degré et de lui accorder la vision de Allah par le cœur sans que Allah soit localisé dans l'espace et les directions. Notre maître, le calife bien guidé, l'imam Ali ibn Abi Talib, que Allah l'honore, a dit: Allah existe de toute éternité, alors qu'aucun endroit n'est de toute éternité. Il est maintenant tel qu'il est de toute éternité, c'est-à-dire sans endroit. Donc, kan Allah wa la makan, wa huwa al-ana ala ma alayhi kan. Dieu existe de toute éternité, alors qu'aucun endroit n'est de toute éternité. Il est maintenant tel qu'il est de toute éternité, c'est-à-dire sans endroit. Il ne change pas. Donc, c'est Dieu qui a créé le ciel, la terre, le trône. Il existe avant les créatures. Sans les créatures, après qu'il les a créées, il ne change pas. Ce dont on tient compte dans la croyance n'est pas basé sur les illusions, mais sur la raison saine qui est témoin de la religion. Car si Allah était dans un endroit, il aurait des limites, des extrémités, des fins. Et celui qui est ainsi a forcément une existence précédée du néant, c'est-à-dire qu'il est créé. Il n'est donc pas Dieu. Donc celui qui est localisé serait une créature. Comme il a été validé que Allah existe sans endroit, avant la création des endroits et des directions, il est validé qu'il existe après les avoir créés sans endroit. Et ceci ne constitue pas une négation de l'existence de Allah Ta'ala. L'imam Ahmad ibn Hanbal ainsi que l'imam Dhunnun al-Masri, élève de l'imam Malik, ont dit: Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi dhalik. Ce qui signifie: quoi que tu imagines, Allah en est différent. Rapporté par le Hafiz Abu Bakr al-Khatib al-Baghdadi dans son livre Tarikh Baghdad, avec une chaîne de transmission remontant jusqu'à Dhunnun al-Masri, et rapporté aussi par
Abu al-Fadl al-Tamimi al-Hanbali dans son livre Aitiqad al-Imam Ahmad. Ainsi, il est impossible d'imaginer le Créateur car il ne ressemble pas aux créatures. Rien n'est tel que lui et rien n'a de ressemblance avec lui. L'imam Abu Ja'far al-Tahawi a dit: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر, qui signifie: et celui qui attribue à Dieu un des sens des humains, certes, est devenu mécréant. Alhamdulillah Rabbil Alameen.